Bonjour à tous, vous êtes dans Bord de Seine et avec Tiffen. Bonjour à tous et bienvenue dans Bord de Seine, l'émission qui vous propose de découvrir le théâtre au travers de ceux qui en ont fait leur passion. Aujourd'hui, je serai avec Juliette Ose qui, pour reprendre ses mots, se présente comme une bactérie sensible qui s'adapte à tout écosystème. Elle a suivi diverses formations comme le Conservatoire de Clermont-Ferrand et la formation du Théâtre de Ring de Toulouse. Elle a également suivi des stages de clown. Elle a créé plusieurs formes théâtrales, mais aujourd'hui, elle vient nous parler de son spectacle de jardin, Tâche d'être touché par l'au-delà. Et avant de l'écouter nous parler de cette création, je vous propose de découvrir la pièce Innocente de Dea Loher.
Se reposer. Pour toujours se reposer.
Un peu macabre.
Ça parle pour. Et comment que ça parle pour ?
Qu'est-ce que t'en sais ?
Mais ça se pourrait.
Mais t'en sais rien.
Personne le sait, mais ça se pourrait.
Ça peut pas marcher. Tu t'imagines quoi ? Le genre sommeil éternel, c'est ça ? Plus chiant, tu meurs. Non. Non, ça parle pas pour.
Pourquoi pas ? Enfin, la paix. Toujours voulu ça.
Sûr. Alors, mais pas tout le temps. Pas pour toujours. On peut pas se l'imaginer de toute façon.
Toi pas ?
Veut dire quoi, ça ?
Éternellement, c'est pas dans le temps. Une fois que t'y es dans l'éternellement, tu remarques même pas que t'y es. Tu sais même plus ce que c'est que le temps. Alors tu penses plus en jours et en heures. Si le mec arrive et te demande quelle heure il est, tout ce que tu fais, c'est le regarder en faisant
Ok, ok.
T'as plus besoin d'avoir peur de demain, par exemple. Parce que demain, ça existe plus. La semaine prochaine, ça existe pas. Dans un an, ça existe pas. C'est tout maintenant. C'est tout sur le moment. Si c'est pas sur le moment, ça existe pas.
Ok. Ok, mais la mémoire. La mémoire, elle est encore là.
Il y a des chances.
Hier, ça existe encore. La semaine dernière, ça existe encore. L'an dernier aussi.
Il y a des chances.
Tu vois, c'est pas tout que maintenant.
Ça, c'est juste dans ta tête, cette histoire d'avant.
On s'en fout, où c'est ? Quand ça me fait mal, ça change rien, que ce soit au genou ou dans l'oreille interne. Quand ça me fait mal, je veux que ça ait disparu. Tout ce qui me fait mal d'avant doit avoir disparu.
Minute, papillon. On s'égare, là. Je pense que c'est comme ça, dans l'éternellement, il n'y a pas d'hier. S'il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier non plus. C'est logique. Ça revient au même. Toujours maintenant. C'est ce que je dis.
Je trouve ça un poil bizarre. C'est comme ton histoire de se reposer. Si c'est ça, je veux dire. Si c'est ça, un seul jour, qui s'arrête jamais ou qui recommence tout le temps et tu sais pas où est le début et où est la fin, je trouve que c'est pas bien. Quand je pense à quel point je suis content la plupart du temps, même quand une journée est finie, et d'un coup, il n'y aurait plus qu'une seule, une seule journée et elle aurait jamais de fin. Non, non, tu vois, je trouve pas ça bien.
C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Si c'est un moment où tu te sens bien, où tu penses à des trucs agréables, du coton, pas de mauvaise énergie, pas de stress, le genre... quand t'as pris des drogues, ouais, ce genre-là.
Ok, ok.
Bon, et maintenant, ce moment, il ne s'arrête plus jamais. Et voilà, c'est ça le truc putain, c'est ça. Un méga super orgasme permanent que tu crois pas à l'intérieur de l'éternellement.
Ça me tuerait.
Tu veux plus redescendre, là, tu veux plus redescendre.
Et tu fais quoi de l'enfer et de la damnation éternelle, et du mauvais karma, et de la renaissance et de toute cette merde ?
Pas mon problème. Demande à un curé, à un mufti, à un adepte de Bouddha. Il y en a déjà un qui y était, qui l'a vu de ses propres yeux. Tu connais pas ça. T'es déjà mort. Ils t'ont tous lâché. Papa et maman pleurent à ton chevet, le médecin-chef hoche la tête affligée, et toi, tu planes au-dessus du décor, complètement hors de toi-même. T'as filé à l'autre bout du tunnel où il y a la lumière, t'es là, suspendu au-dessus de toi-même et au toubib, tu lui vois son crâne chauve.
Je connais.
Alors tu dis quoi ?
Vous n'étiez pas mort pour de vrai, que je dis. Ça a quelque chose à voir avec la science que je dis. C'est sérieux ça, c'est du fait divers en dernière page.
Ok, ok.
Et ta vie d'avant alors ?
Pas mon problème.
Tu t'en souviens ? Tu peux t'en souvenir ? Si la mémoire elle est là, tu peux t'en souvenir.
Il y a des chances.
Ce qui a existé, tu le sais et tu l'oublies plus. Non. Non, dans l'éternellement aussi, tu dois avoir une idée de qui tu es et que tu es toi et pas un autre.
Ok, ok.
T'en penses quoi ?
Donc ce qui vient après, on le sait pas.
Personne ne le sait.
C'est un risque.
Je vois ça pareil.
T'en penses quoi ? Ça parle pour ou contre ?
Plutôt pour. Un risque, ça parle plutôt pour.
Personne ne le sait, ma foi. On vérifie par nous-mêmes, dans un cas comme dans l'autre.
Ok. Ok. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ton parcours. Déjà, c'est quoi une bactérie sensible ?
Bah, une bactérie sensible, c'est je m'appelle comme ça parce que en fait, en réalité, je crois que les bactéries, c'est ce qui constitue ce qui est vivant, et je crois que à partir du moment où on s'adapte à tout écosystème, on devient libre, indépendant et heureux.
Comme toute bactérie, c'est ce que tu cherches à être dans ta vie artistique ou personnelle?
Moi, c'est plus quelque chose qui me fait plutôt rire, et c'est vrai que je me caractérise comme étant quelqu'un de très adaptable, donc ça me parle, et puis la sensibilité, c'est quand même ce qui caractérise l'être humain, et c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui me parle, ouais, en effet.
Alors, je dis tu tout à l'heure, est-ce que je peux te tutoyer?
Bien sûr.
Super. Alors... qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu as fait le COP de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que c'est le COP? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Le COP, c'est le Conservatoire de Clermont. C'est le COP, ça se passe en 2 ans. C'est le cycle d'orientation professionnelle. C'est ce qui permet à tout jeune ayant envie de devenir comédien de rentrer en contact avec le théâtre de manière permanente. Voilà, c'est 25 heures de théâtre par semaine avec du chant, de la danse. C'est comment tu développes ta pratique artistique.
C'est une formation très complète, finalement.
Complète et en même temps qui tend vers le théâtre classique et contemporain, donc qui est étriqué dans sa vision de ce que ça peut générer chez un comédien, puisqu'il y a aussi du théâtre de rue, du théâtre de jardin, de la performance et tout ça. C'est vrai que je l'ai peu abordé au conservatoire, mais ça a été un premier pas, oui.
Alors, j'ai eu la chance de voir ton spectacle « Tâche d'être touché ». J'ai surpris une conversation où tu nous disais que tu avais fait le ring car tu ne voulais plus travailler dans la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour moi, le théâtre, à l'heure actuelle, est dans une passe assez compliquée. Et moi, j'ai fait le conservatoire il y a 5-6 ans. Travailler dans la souffrance, pour moi, c'est ne pas prendre... en lien le comédien dans toute sa sensibilité. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le rôle d'interprète, et on m'a dit que être comédien, c'était interpréter des textes, c'était interpréter des personnages, puis moi, j'ai beaucoup travaillé avec la méthode Stanislavski, qui est une méthode qui amène les comédiens à vivre leurs émotions avec des souvenirs, et qui enclenche des systèmes corporelles qui sont pour moi violents, qui peuvent pour d'autres ne pas du tout l'être. Et j'avoue que dans la souffrance, pour moi, il y a ce terme qui me parle beaucoup quand on dit qu'un comédien essaye de vivre à travers l'instant. C'est pour moi comment on dissocie en fait le personnage du comédien qui en réalité vit les émotions du personnage. Et pour moi, il n'y a pas de différence, mis à part que la distanciation est importante à tenir, et on nous apprend très peu à nous distancier. Et moi, ce qui m'intéresse dans le fait de faire de l'art et faire du théâtre, c'est vraiment pas me distancier de mes émotions, mais plutôt m'en rapprocher. Donc pour moi, le travail de souffrance, c'est vraiment faire croire aux comédiens qu'il pourrait amener de la distance, alors qu'en réalité, il est dans son corps et il vit les émotions pleinement.
Ouais, et on a aussi cette idée de... C'est presque violent, finalement, pour le comédien, cette méthode. Tu nous as parlé un peu de système violent.
Bah, pour moi, oui, ça a été violent. Après, je ne dis pas que pour tous les comédiens, c'est un système violent, mais c'est vrai que la distanciation, pour moi, c'est pas du tout la clé du travail de comédien.
D'accord. Donc toi, tu essayes de te rapprocher le plus possible de tes émotions.
Tout à fait.
Alors, tu nous présentes un superbe spectacle, Tâche d'être touché. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pour nos auditeurs qui ne connaissent pas un petit peu, qui n'ont aucune idée de ce que c'est?
Alors, Tâche d'être touché par l'au-delà, c'est un solo de clown qui est à destination des adultes. C'est un spectacle que j'ai créé sous la forme de théâtre documentaire, mais qui en fait relate des histoires et des interviews liées à la question « C'est quoi la dernière chose qui t'a touché ?» L'idée de ce solo, c'est de rapprocher les gens d'eux-mêmes et de leur permettre de contacter comment être touché par quelque chose, par une matière ou par un événement dans une vie. Et du coup, c'est un solo qui utilise énormément d'improvisation. C'est un spectacle participatif qui amène le public à lui-même se poser des questions par rapport à sa qualité de bactérie sensible.
D'accord, donc finalement, tu reprends un peu ta vision des choses, ton but de te rapprocher de plus en plus de tes émotions, et tu essaies de le transmettre finalement.
Alors, le transmettre, c'est beau de dire. En tout cas, j'essaye juste de moi-même être au plus proche de ça pour que ça puisse être véhiculé. Après, chacun en fait ce qu'il veut, et si ça arrive, alors j'ai gagné mon défi.
D'accord, d'accord. Et comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir faire ce spectacle ? Donc tu nous parles tout à l'heure de cette idée, ce but que tu as de te rapprocher le plus possible de tes émotions. C'est quelque chose qui a joué dans ton idée, dans ta volonté de faire ce spectacle ?
Bah alors pour moi c'est quelque chose qui est évident. Pour moi c'était impensable de faire un spectacle dans lequel je ne me sentirais pas proche de moi-même.
D'accord.
Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, je pense que ça a été clairement un déclencheur. Il s'est passé qu'il y a 3 ans, j'ai fait du coup l'école du ring à Toulouse. Et ça a été une école qui m'a énormément apporté parce que c'est une école qui s'appelle l'acteur au présent. C'est une formation de 6 mois qui te fait rentrer en lien avec comment faire pour toujours être au présent et lâcher la volonté.
Lâcher la volonté, ça veut dire quoi ?
Lâcher la volonté, c'est ne pas émettre toi-même d'injonctions sur ce qui doit être, mais juste être avec ce qui est. Mmh. Et donc du coup, on enchaîne des stages de 2 semaines avec des stages de voix, des stages de corps, des stages de danse, des stages de trance. Et comment on fait pour, par le corps, par la voix, par l'écriture, par la scénographie, par le texte, comment on fait pour aller vers quelque chose de plus authentique, de plus sincère, de plus en lien avec l'être humain. Et si tu veux, Tâche d'être touché par l'au-delà, pour moi, ça a été un spectacle qui a mûri pendant 3 ans dans mon esprit et qui s'est accouché en 3 jours lors d'une résidence que j'ai fait dans un jardin à Nucidan, proche de Bordeaux. Et ça a été vraiment un déclic pour moi pendant 3 ans de réfléchir, de maturer, d'être en gestation de ce spectacle. Et en fait, ça a été pour moi le moment très très juste où je venais d'avorter et où j'avais vécu un moment très très profond avec le bébé que j'avais dans le ventre. Et ça a été vraiment une espèce d'accouchement en fait de spectacle qui a été très très important pour moi pour continuer ma vie et pour pouvoir m'ouvrir au présent.
Finalement, c'est un peu quelque chose qui t'a... Bon, le mot est un peu fort, mais sauvé ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a un lien en fait avec cette période que tu as vécue et justement le spectacle ? J'ai l'impression qu'il y en a un.
Oui, tout à fait. En fait, si tu veux, quand j'ai porté le bébé dans mon ventre, j'ai senti que je voulais être mère. C'était la première fois. Et puis, j'ai senti que je n'avais pas encore réalisé mes rêves. J'ai senti qu'il y avait vraiment un élan vers le fait d'offrir un spectacle aux gens, au monde, et que pour moi, faire un enfant, c'était comme le porter avec moi, le voir évoluer, lui permettre de s'exprimer, de se sentir en capacité de véhiculer un message dans le monde qui est le sien. Et pour le coup, c'est vrai que ce spectacle m'a beaucoup appris, m'a beaucoup apporté, au-delà de ma volonté, au-delà de ce que j'aurais voulu qu'il dise ce spectacle. C'est comme un enfant, quand on éduque un enfant, pour moi, c'est vraiment comment l'amener pour être le plus lui-même. Mm-hmm. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai vraiment eu cette sensation avec le spectacle. Donc oui, il y a un vrai lien, et surtout un lien de guérison. Alors je ne dirais pas que ça m'a sauvé, mais ça a été un lien de guérison, de mes propres émotions, du message que j'ai envie de véhiculer dans la vie. Et oui, tout à fait, ouais, ça a été vraiment un grand pas vers moi-même et vers mon corps.
D'accord, c'est un message aussi. Alors attends. Tu nous parles de spectacle de jardin dans ta biographie. Qu'est-ce que c'est un spectacle de jardin ?
Un spectacle de jardin, c'est un spectacle qui est voué à jouer dans le jardin. C'est un spectacle qui est au plus proche du public et qui est programmé par des particuliers dans leur propre jardin. Le format que moi j'ai utilisé, c'est que je prends contact avec les gens qui nous accueillent. Et donc l'idée, c'est qu'ils invitent entre 20 et 30 personnes chez eux, dans leur jardin, et qu'ils nous salarient à travers des guzots en faisant des spectacles chez les particuliers. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer en extérieur, en pleine saison, donc à partir du printemps jusqu'en octobre. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de partager avec un repas partagé à la fin du spectacle pour créer du lien. Et vraiment, c'est un prétexte à la rencontre humaine, en fait.
C'est ça, l'idée, c'est effectivement de partager un moment avec différentes personnes que tu ne connais pas forcément et qui, au final, avec lesquelles tu crées du lien, oui.
Oui, et puis comme on dort chez l'habitant, si tu veux, c'est vraiment un rapport très, très proche et très, très complet et intense dans le partage.
D'accord. Alors, d'où elle t'est venue l'idée de jouer en extérieur, justement? Alors, est-ce que ça t'est venu naturellement, cette volonté de partager avec les personnes, cette idée de cette volonté de jouer dans un jardin, ou est-ce que c'est quelque chose qui a mis plus de temps à maturer?
C'était assez intuitif parce que on venait de vivre le premier confinement. Et même avant ça, en fait, pour moi, les salles qui sont enfermées dans le noir, pour moi, c'était pas possible de travailler sans la lumière directe du soleil.
D'accord.
Donc ça a été vraiment une écoute personnelle de mes propres besoins qui se sont combinés à mon envie de rencontre avec les particuliers, le fait de plus avoir envie d'être programmé par des programmateurs, de ne plus avoir à vendre mon spectacle et plus avoir à séduire le monde de la culture.
Oui, d'être indépendante finalement.
Remplir des subventions. Oui. Donc si tu veux, pour moi, c'était vraiment exactement ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin.
Donc en fait, il y avait un peu aussi cette volonté d'être indépendante.
D'être indépendante et puis surtout en lien avec un public.
Mmh. D'accord. Et c'est vrai que... Donc, du coup, est-ce que tu as l'impression que dans les salles, que dans le théâtre entre guillemets contemporain classique, on n'arrive pas à créer ce lien avec le public, du moins pas comme tu voudrais le créer?
Alors si, on peut le créer avec des bords plateaux, avec plein de choses, mais ça reste un endroit qui est quand même neutre et qui est quand même coupé du monde, et qui est quand même coupé de la lumière, qui est coupé de la réalité des gens et de leur propre vie. Donc c'est comment faire pour créer des formes qui sont non pas dans la beauté, dans l'harmonie artistique créée par les lumières, avec la distanciation du quatrième mur. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je me rapproche, en tout cas, des êtres humains qui vivent des choses concrètes et réelles et qui sont eux-mêmes dans leur habitat.
Donc, il y a un peu cette volonté de rentrer dans la réalité, finalement. Pas de proposer une parenthèse à la réalité, mais vraiment d'aller vraiment dans cette réalité-là.
Et c'est le principe même du clown. Donc, oui, ça relie totalement ce que tu dis à ce que je voulais faire. Et le lien qu'il y a entre le clown, c'est qu'il n'y a pas de quatrième mur. Donc, pour moi, jouer dans un théâtre, c'est comme partir en voie vers le suicide du clown, quoi.
Oui, d'accord. Comment est-ce que concrètement tu as abordé le fait de jouer en extérieur, justement?
Bah, moi, ça a été dès lors de la résidence. Quand j'ai créé mon spectacle, j'ai déjà joué dans un jardin. Donc c'était très très facile pour moi de j'ai pas eu à transformer la forme, j'ai pas créé dans un théâtre, puis... Les environnements, après, il est vrai que dans tous les jardins dans lesquels je vais, je dois faire vraiment un repérage avant, parce que chaque fois que je joue mon spectacle, il change de lieu, donc il change d'aspect, il change d'écosystème, donc il y a une question d'adaptabilité dans ça.
Donc finalement, c'est un spectacle qui se joue beaucoup aussi en fonction du lieu où il est. Donc c'est un spectacle adaptatif, enfin... Presque.
Ah oui, totalement. C'est un spectacle qui s'adapte à l'environnement et qui s'adapte surtout aux gens qui nous accueillent. En effet, ouais.
Alors, tu disais aussi qu'il y avait une énorme part d'improvisation. Est-ce que, du coup, ça veut dire que le spectacle change aussi presque de... Bon, je vais dire presque d'histoire en fonction de là où il prend place?
Tout à fait, oui. Il change d'histoire parce que, en fait, le clown se rapproche vraiment d'une discipline qui est de l'ordre de prendre tout ce qui est et tout ce qui est vivant, ici et maintenant. Donc, déjà, la discipline du clown fait que Si tu veux, j'ai joué 67 fois mon spectacle. Sur les 67 fois, je pense qu'il n'y a pas une seule fois où le spectacle s'est ressemblé, dans le sens où voilà, il y a quand même 45 minutes d'impro et 30 minutes d'écriture. Donc, sur tout ce temps-là, il y a vraiment une dimension où il y a plus d'improvisation que d'écriture même.
D'accord. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans cette volonté de jouer en extérieur?
Oui, plein. J'ai rencontré plein de difficultés, mais je ne vois pas ça comme des difficultés, mais plutôt comme des défis. Mmh. Pour moi, derrière la peur, il y a un trésor, et la peur que j'ai pu avoir de changer de forme, de changer de spectacle, de changer de lieu. Pour moi, le plus difficile, ça a été vraiment l'acceptation qu'à chaque fois, je serais face à l'inconnu. Et du coup, il fallait rendre cet inconnu connu et accepter que je démarrais de zéro à chaque fois et que du coup, c'était comme si c'était la première fois à chaque fois. Ce qui était très difficile, ça a été plutôt l'administratif, le fait de me salarier avec les Guzzo, le fait de faire parcourir mon clown des lieux très différents les uns des autres. Pour moi, la grande richesse de cette aventure, c'est quand même le partage humain et le prétexte pour moi de créer est vraiment un prétexte de rencontre, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Et c'est vrai que je trouve que ce qui est très difficile, c'est d'avoir une hygiène de vie, en fait. Comment faire pour avoir de surcroît la capacité de dormir correctement dans tous les lieux dans lesquels on va, de se réveiller, d'installer le décor, de repartir le lendemain. Enfin, il y a un rythme à tenir qui est très difficile.
Qui est très, ouais. Très, très épuisant aussi.
Qui est très salvateur.
Alors, salvateur, pourquoi ?
Parce que, en fait, quand on arrive dans un lieu, il y a vraiment un besoin de se centrer sur soi. Et pour moi, ce que j'appelle salvateur, c'est que dans mon processus de vie, j'ai appris à comprendre que fermer les yeux, c'est rentrer chez soi. Et quand je dis que c'est salvateur, c'est que pour moi, qui ai toujours eu une maison et qui ai été sédentaire, le nomadisme, c'est un apprentissage. Et ce qui a été salvateur pour moi dans cet apprentissage, c'est de me rendre compte que partout où j'allais, je pouvais être chez moi.
D'accord, c'est comme un voyage perpétuel, en fait, au final.
C'est un voyage perpétuel qui te ramène vers toi et qui te propose vraiment de t'ancrer peu importe où tu es et de te centrer sur ton chez-toi, sur ta maison intérieure qui est ton corps. Mmh.
D'accord, donc il y a ce truc de... Parce qu'en même temps, tu parles aussi du fait que ton spectacle n'est jamais le même, donc tu découvres presque ton spectacle en même temps que le public.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, le public joue énormément dans ton spectacle aussi, de ce que j'ai compris.
Oui.
D'accord, alors ce que je te propose, avant de passer à la suite, c'est une première pause musicale. Donc tu as choisi « Jeu » de Mathéo Langlois. Pourquoi ce choix ?
C'est assez simple, c'est un ami que j'aime énormément, qui travaille sur le principe de loop. Et il fait tout seul et il a un univers musical qui est très vibrant. Et c'est une musique qui est intégrée dans mon spectacle depuis peu. Qui parle du rapport au jeu, du rapport à soi-même, du rapport à comment on fait. Et dans mon spectacle, à un moment donné, j'utilise beaucoup de pronoms en parlant du fait que qui est le grand nous, qui est il, qui est je, qui est vous, comment on peut dire qu'il n'est pas elle. Et à un moment donné, je lance cette musique qui est pour moi une ode au soi. Une ode à être soi.
Donc on retrouve cette idée de se connecter avec qui on est au final.
Tout à fait.
Eh bien, très bien, on écoute.
Je...
Attention.
Je n'ai que je pour te dire, m'as-tu vu ? Je n'ai que je, mais ce jeu-là me tue. Oh, je n'ai que je pour apparaître. Je n'ai que je pour tout mon être. Et je sais bien trop peu. Ah, c'est bien trop. Je n'ai que je pour te dire que je m'aime. Je n'ai que tu pour m'écrire des poèmes. Je n'ai que je pour faire le beau. Je n'ai que je suis dans ma peau. Quand je voudrais bien dans tes yeux. Quand je voudrais bien dans tes yeux. Je n'ai que je pour contempler la nuit. Je n'ai que je perdu dans l'infini. Je ne demande qu'un peu de répit pour qu'une fois enfin je m'oublie, que je ne puisse faire plus qu'un. Avec tout ce que je suis.
Merci Juliette pour ce choix. C'est très effectivement, c'est une chanson. On a l'impression que ça réfléchit beaucoup.
Bah si, il réfléchit. En tout cas, il réfléchit bien à la lumière, ce thème, c'est sûr.
Alors, Est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage?
Alors du coup, j'appellerais pas ça un personnage, mais plutôt une créature. Pour moi, le clown, c'est vraiment de l'ordre de la créature. On a mille facettes auxquelles on n'a pas forcément accès dans la vie de tous les jours. Si je vous parle de mon clown, je parlerai plus de ce que je vis avec lui plutôt que de lui, parce que pour moi, il est indépendant dans sa manière d'être, donc il est métamorphe, il change de forme tout le temps. Que vous dire sur mon clown, à part que c'est une boule d'amour qui a envie d'être touchée et de sentir l'être humain au plus proche de lui. Je dirais que son nom Ose porte déjà les trois lettres d'un mot que j'aime beaucoup. Il y a un homme qui disait rien n'est impossible à celui qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Et je crois que oser pour moi c'est le maître mot de la vie, en tout cas à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment oser aller vers soi, oser être. Et du coup je pense que mon clown est très tributaire du public et très tributaire de l'endroit où il se loge. Donc il change de forme, comme je le disais, et pour moi c'est indicible. Je pourrais pas vous parler vraiment de qui il est, ni de ce qu'il fait, ni de ce qu'il sent, ni de ce qu'il pense, parce que c'est tellement différent à chaque fois que je dirais que c'est un être multiple que je ne saurais décrire.
Est-ce que dans le mot ose, il y a un peu cette volonté de lâcher prise, de se détacher de toutes les obligations, de toutes les contraintes personnelles qu'on peut avoir pour pouvoir justement oser faire des choses?
Je crois que le mot ose est sorti lors d'une improvisation. Pour moi, il vient juste dire que dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, où il y a beaucoup de conditionnements, il y a beaucoup d'enfermements, il y a beaucoup de non-liberté d'exprimer qui on est au moment où on l'est, moi j'ai un rapport aux émotions qui est très très particulier. Pour moi, le fait d'oser, c'est oser danser dans la rue, oser pleurer dans la rue, face au monde en fait. C'est comment on fait pour oser être soi à chaque moment et comment on fait pour ne pas porter des masques.
Donc, ouais, finalement, cette volonté de se libérer justement des, entre guillemets, des dogmes, des barrières sociales presque.
Ben, c'est surtout comment faire pour oser déjouer le grand bal masqué de la société.
Qu'est-ce que tu entends par bal masqué?
Ben, on vit dans une société où tout le monde porte des masques en permanence, que ce soit social ou concret, dans la rue, enfin je veux dire... Le masque n'a plus de secret, il vient même se matérialiser dans la matière et il vient même couvrir notre visage pour nous empêcher de respirer et nous empêcher de parler correctement. Donc pour moi, il y a vraiment un grand parallèle entre ce que vit notre époque et le fait qu'il faut porter des masques pour ne pas se contaminer, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une hérésie de croire que un virus ne peut pas se transmettre. On est tous des bactéries sensibles et le toucher qui nous est interdit avec les distances... et les réglementations actuelles, c'est pour moi le mal du siècle. Donc il y a vraiment un bal masqué, déjà matériel, mais aussi spirituel, sensoriel. Bon, voilà, bien avant le Covid, je voulais créer ce spectacle sur le toucher, parce que pour moi, en Occident, il y a une réelle problématique de on ne se touche plus, on ne se masse plus, on ne se prend plus dans les bras, on n'ose plus juste être vivant, quoi.
Oui, et ça empêche un petit peu de se rencontrer aussi, les uns les autres.
Il y a beaucoup de barrières, alors du coup, ça dépend qui on est et ce qu'on fait dans la vie, mais pour moi, il y a vraiment un truc de remettre du contact là où il a été perdu.
Est-ce que c'est de là que t'es venu, du coup, l'idée de cette créature, tu parles de créature, du coup, de ton clown?
Je crois que c'est pas venu de là, je crois que c'est venu vraiment d'une envie d'être touché, en fait, d'une sensualité, d'une sensorialité, enfin, pour moi, il est clair que dans nos vies, enfin, dans ma vie, en tout cas, pour parler de moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup la sensation d'être quelqu'un qui est très tactile et qui ça a été parfois très intrusif dans la vie des gens. Et c'est une grosse problématique de ma vie, de comment faire pour toucher les gens sans devenir intrusive. Donc c'est vraiment la problématique aussi de ma vie, de comment rentrer en connexion avec l'autre sans la parole.
Donc oui, effectivement, comme tu disais, c'est un prétexte, c'est un moyen en fait pour toi de pouvoir rencontrer l'autre et en même temps se faire fi justement de ces barrières sociales. En fait, tu contournes avec ce spectacle les barrières sociales.
Je les contourne, je leur fonce dedans, c'est comme on préfère, ouais.
D'accord. Est-ce que, pareil, du coup, c'est quelque chose... Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté avec ce clown? Est-ce qu'il y a eu des difficultés à le mettre en place?
Oui, il y a eu des difficultés. La difficulté première, ça a été d'accepter de me foutre à poil totalement et d'accepter que je n'avais pas la main mise sur ce qui allait se passer. Oui, ça a été des questions de lâcher prise, des questions de pudeur, de comment lâcher le sentiment d'être totalement à nu et d'être OK avec ça.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est quand même une mise à nu personnelle, du coup.
Ça, c'est...
Que tu te confonds totalement avec ton clown.
Bah, c'est des allers-retours en permanence entre la comédienne, le clown, le jeu, le public, l'extérieur, l'intérieur. Oui, c'est des allers-retours permanents. La voix du clown, pour moi, c'est de temps en temps, j'apporte ma voix de comédienne. C'est quelqu'un qui peut changer. À la fin, j'enlève le nez parce que c'est la comédienne qui parle, qui dit... je dois vous faire un aveu, voilà, je suis venu ici pour vous toucher, mais je crois que je me suis trompé. En fait, je crois que ce serait plutôt vous que j'ai envie que vous me touchiez. Donc, c'est plutôt la comédienne qui dit ça plutôt que j'enlève mon nez à la fin.
Pour dire que c'est toi qui parles. Ok. Ah, c'est d'accord. Ça, c'est quelque chose pour le coup. On n'a pas l'impression que c'est toi qui parles, on a l'impression que c'est un autre personnage. Qui parle à ce moment-là, un espèce de troisième personnage. Enfin, en tout cas, en tant que spectatrice, c'est vrai que c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai eu l'impression qu'il y avait qu'il y avait encore une part en fait de jeu là-dedans. Est-ce que c'est vraiment purement toi qui parles ou est-ce que c'est une version toi, mais un petit peu jouée, un petit peu romancée?
Non, c'est totalement moi. Il n'y a pas de filtre. Si tu l'as pas senti, c'est que sûrement à ce moment-là, en tout cas, j'étais connectée parce que il y a plein de fois où finalement dans le spectacle on essaye et puis ça foire et puis il faut recommencer 1000 fois avant de réussir à faire un aveu totalement sincère et intègre. Mais là pour le coup non, c'est vraiment ma personne qui se positionne face à un public. Alors oui, je suis en représentation et tout ça, mais j'étais au plus proche de mes émotions et au plus proche de qui je suis à ce moment-là pour dire que j'ai envie d'être touchée et que physiquement j'ai besoin que les gens me touchent.
Donc... D'accord. Alors, est-ce que... Alors oui, du coup, le fait d'entrer en contact physique avec le public aussi, c'est une volonté d'être touché finalement. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est un moyen. Est-ce que tu as eu des fois où le public n'était pas réceptif?
Non, ça n'arrive jamais parce que en fait, c'est un spectacle participatif, c'est annoncé au début et les gens... pour moi, ça dépend le cadre de confiance que tu poses et l'intention avec laquelle tu arrives. Si tu veux mettre le public dans une situation qui est de la prise d'otage, le fait de prendre le public à partie, de se moquer de lui, évidemment, le public peut refuser. Mais quand tu es tout amour et que tu proposes aux gens de participer, c'est très rare que des gens disent non. S'il y a un non qui s'exprime dans le non verbal, je sens que ce n'est pas OK, ouais. Je switch de personne très, très rapidement.
D'accord. Donc, et ça t'est arrivé déjà de sentir que ce n'était pas OK pour une personne?
Oui, ça m'est déjà arrivé, oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est une perception à avoir et d'être très, très vigilant avec le fait de ne pas choisir des gens qui n'ont pas envie d'être choisis. Et donc, j'ai dû resserrer les étaux de mon spectacle, parce qu'au début, je faisais participer 5, 10 personnes. Dans mon spectacle et là j'avoue que je suis plus basée sur 3-4 maximum, que je sens qu'il est important de laisser le spectateur être spectateur et ne pas lui donner le rôle d'assumer mon spectacle alors que c'est moi qui le propose.
D'accord, donc finalement il faut arriver à faire preuve de sensibilité pour sentir pour arriver à détecter entre guillemets les personnes qui sont OK, quoi.
Parfait.
Après, le fait que tu sois en représentation, c'est vrai que ça, de mon point de vue, ça peut aider aussi à créer ce lien, à faire en sorte que les personnes l'acceptent. Parce que quand on est en représentation, il y a toujours cette espèce de, dans l'inconscient en tout cas collectif, cette espèce de parenthèse où c'est comme si on entrait dans un autre univers. Je ne sais pas si c'est un avis que tu partages ou si ou pas.
De toute manière, quand on propose quelque chose dans la vie, que ce soit une performance, une œuvre théâtrale, en tout cas, dès que ça touche à l'art, les gens se permettent des choses qui nous permettent d'avoir un quotidien, c'est une certitude. Okay. Donc oui, on rentre dans une bulle, on rentre dans un état sacré, et du coup, dans le sacré, il arrive sûrement souvent des choses divines, et les gens se laissent beaucoup plus le droit à ça que parfois dans leur propre quotidien.
D'accord. Alors, tu instaures un lien avec le public. Est-ce que, au-delà de ce lien, il y a une relation que tu cherches à instaurer avec lui ?
Déjà, dans la première partie de mon spectacle, je donne des tickets aux gens sur lesquels il y a inscrit des questions. C'est quoi les dernières choses qui t'ont touché ? Un souvenir d'enfance que tu as envie de me raconter ? Comment tu touches dans ton quotidien ? C'est que des questions qui sont en lien avec le toucher. C'est des questions qui ont été mises en place pour effectuer un repas partagé après le spectacle et pour avoir l'occasion de parler sincèrement des questions du toucher.
Et donc,
pour moi, ça a vraiment été d'une importance sans nom, parce que c'est un prétexte pour moi d'aller rencontrer les gens. Et c'est vraiment lors de l'auberge espagnole, avec les questions des tickets du spectacle, que s'opère pour moi la magie. Parce que comme je me suis livré pendant une heure de manière totalement... que je me suis mise à nu, c'est grâce à ça en fait que j'arrive à aller discuter avec les gens de manière totalement sans filtre,
ouais, décomplexée.
Les gens se livrent vraiment aussi, et c'est très très important pour moi.
D'accord, donc finalement tu instaures un lien pour pouvoir ensuite créer une relation derrière, discuter de façon décomplexée.
Tout à fait.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre avec ton spectacle ?
Moi j'ai beaucoup de volonté à vouloir avoir un message, en réalité ça me dépasse. Il trouve chacun ce qu'il veut lui-même trouver. Moi le message que j'ai envie de véhiculer, c'est comment aimer et être aimé. Enfin, ça se rapproche plutôt de la question du toucher, comment être touché par les choses, par la musique, par la danse, comment faire pour se laisser toucher,
oui,
comment
pour faire
s'ouvrir. Pour être à nu. Soi-même vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même surtout avant toute chose. Donc le message en question, il est toujours différent et il change de forme souvent. Mmh. Donc moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est plutôt qu'est-ce que le monde a envie de me dire que qui passe à travers mon corps et le laisser être à ce moment-là. Ouais.
Finalement, s'ouvrir à ce que le monde peut te donner.
Moi, le message que j'ai envie de véhiculer, c'est quoi la dernière chose qui t'a touché ? C'est poser la question au monde de où se situe ta sensibilité et par quoi elle a été activée.
Ouais. D'accord. Alors, on arrive au terme de notre interview. Avant de terminer, avant de passer à tes différents projets et à comment te contacter, je te propose un petit portrait chinois de ton clown. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
Avec grand plaisir, oui, je sais ce que c'est.
Alors, si tu devais définir ton clown en une réplique de ton spectacle.
Quelle est la dernière chose qui t'a touché ? Je pense que ça serait aussi simple que ça.
Oui, oui, ça le définit, cette volonté justement de connaître. Si c'était un aliment.
Je serais une mousse au chocolat remplie de pépites dorées, de paillettes. J'aurais sûrement de la morve au nez quand je la mangerais et je me l'étalerais sur le visage.
De la pure gourmandise.
Voilà, je pense que je la mangerais d'une manière un peu différente et que je me plongerais mes mains dedans tout en touchant comme si c'était la première fois quelque chose d'aussi onctueux.
Ah, c'est intéressant cette réaction justement de se le mettre sur le visage.
Pour moi, c'est vraiment une invitation là que je fais aux gens. C'est redécouvrir la matière, jouer avec, permettez-vous des choses que votre enfant a été brimé de faire. Et n'hésitez pas à revivre les sensations de votre enfance.
D'accord. Si tu étais une couleur.
C'est ça, le rouge.
La passion.
Alors pour moi, le rouge, c'est pas la passion, le rouge pour moi, c'est la vie, c'est la couleur par laquelle les yeux de l'enfant sont plus attirés et qui reconnaît plus rapidement. Pour moi, le rouge, c'est vraiment une couleur de l'ordre de l'amour, mais quand je dis l'amour, c'est pas la passion, c'est le sens et les origines de l'être humain pour moi.
Ah oui, d'accord. Oui, le sang qui porte la vie, Effectivement, il y a toujours un peu ce lien entre la vie et le fait d'être touché, justement, c'est se laisser toucher par la vie. Si tu étais une fleur.
Si j'étais une fleur, je pense que je serais une fleur de lys ou un pivoine. C'était les fleurs préférées de ma grand-mère. C'est des fleurs que j'affectionne beaucoup parce qu'elles sentent très bon. Et du coup, je dirais que ce serait ça, ouais, la pivoine et le lys. Ouais.
Si tu étais un passage de ton spectacle,
Je serais la danse derrière mon tissu.
Oui.
C'est un moment qui me touche particulièrement parce que je me sens toujours connectée au toucher et à la sensorialité de qu'est-ce que ça me fait d'être touchée. Ce serait le moment de la terre, où je m'enduis de terre et où je pense que ce serait un moment comme celui-ci. Ouais.
Alors, petite parenthèse, en parlant du tissu, pourquoi un tissu ?
C'est un tissu, c'est une moustiquaire. Pourquoi ce tissu ? C'est que sensoriellement, ça m'attirait beaucoup et visuellement, je trouvais ça très beau. Donc, ça a été un choix qui a été très, très, très facile pour moi. Et puis, c'était aussi trouver un moyen de rentrer chez moi, en fait.
Ouais.
D'avoir un tissu dans lequel on me voit, mais en même temps qui me permet d'être loin du public.
Ok, oui, c'est un espèce presque des coulisses, mais pas vraiment des mi-coulisses, quoi.
Tout à fait, oui.
Si tu étais un animal
Si j'étais un animal, je pense que je serais un colibri. Je pense que j'aime beaucoup cet animal qui, pour moi, représente vraiment la rapidité, la sensualité, un bec très long, celui qui vient éteindre la forêt dans le conte de Pierre Rabhi. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais.
D'accord. Et enfin, si tu étais un signe astrologique?
Si j'étais un signe astrologique, je pense que je serais le lion. Je pense que je serais le bélier, le taureau.
Des fonceurs, enfin des animaux qui en imposent un petit peu.
Qui en imposent, mais qui en même temps sont des têtes brûlées. Enfin, ce sont des gens qui... Voilà, moi je trouve que c'est des signes astrologiques qui me parlent beaucoup.
Ça te correspond bien. Alors, on va passer à tes projets. Comment est-ce qu'on peut faire pour te voir jouer ?
Alors, je joue à Cézac jeudi à 19h30. Si vous voulez réserver, vous pouvez réserver avec mon numéro 06 69 43 93 56.
On mettra sur le site.
Si vous voulez avoir des nouvelles de mes spectacles, toute ma programmation est marquée sur mon Facebook. Vous avez juste à t'appeler Juliette Ose. Mm-hmm. Je suis en tournée avec Clara Verquin, qui est une comédienne que j'ai rencontrée le soir où j'ai joué mon spectacle à Toulouse. On est deux spectacles. Son spectacle s'appelle D'Addiction, c'est sur l'addiction au sucre. Et on a une formule qui propose deux spectacles pour une soirée, avec un repas partagé et l'idée de communier tous ensemble pour se rencontrer. Si vous avez envie d'avoir plus de possibilités pour me contacter, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à Juliette Michel, comme le prénom masculin, B, comme Bernard, @gmail.com. N'hésitez pas, si jamais vous connaissez des jardins, si vous-même vous avez un jardin, si vous avez des idées de jardins partagés, de plein de possibilités en extérieur, que ce soit urbain ou non, vous êtes les bienvenus à me contacter à l'adresse mail et au numéro suivant. Je reste entièrement disponible puisque c'est plus facile pour moi de mettre en lien des gens plutôt que de faire face à des programmateurs. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, je suis preneuse, évidemment.
Super, merci beaucoup. Alors, au-delà de ce spectacle, est-ce que tu as d'autres projets à venir, d'autres envies ?
Oui, en effet, oui. Je vais créer un spectacle d'hiver parce que, du coup, dès que le froid vient, les dates se font rares. Et l'idée, c'est vraiment de créer un spectacle d'appartement, une performance que j'appelle l'au-delà. Il y a plein de choses qui sont en gestation et qui sont en train de s'effectuer dans ma vie pour continuer à vivre l'hiver et à partager qui je suis et à partager avec les gens que j'ai déjà envie de rencontrer et que je ne connais pas.
Donc affaire à suivre.
Affaire à suivre, tout à fait.
Merci en tout cas, Juliette, d'être venue, d'avoir pris un petit peu de ton temps. Merci beaucoup. Je te souhaite de très, très beaux projets dans l'avenir, de très belles représentations.
Ben, je te remercie et puis je te souhaite d'être toi-même touchée, à nu, face à la radio, avec la voix qui est quand même un outil très sensible.
C'est vrai.
Je te souhaite d'être une bactérie sensible qui s'autorise à être exactement ce qu'elle est au moment où elle vit les choses qu'elle vit et à être transparente avec, avec ce que tu vis à la radio. En tout cas, je te remercie énormément, Tiffaine, d'avoir pensé à moi pour cette interview et n'hésite pas à me recontacter et je proposerai vraiment aux gens qui ont des jardins de me contacter pour qu'on puisse se mettre en lien et monter la révolution culturelle 2021-2022 et de toutes les prochaines années à suivre.
Merci à toi d'être venu en tout cas.
Au plaisir. Merci
et pour
encore.
Pour nous, on se retrouve tout de suite avec un épisode de Raconte-moi.
S'il n'y a jamais eu deux amis inséparables, c'était Goyan Etche et Etche Goyan, nés le même jour dans deux maisons voisines d'aspect également misérable. Ils eurent la même chance de tirer un mauvais numéro et allèrent ensemble rejoindre le régiment. Le temps du service accompli et leur congé dans la poche, les deux amis, impatients de revoir le pays, passèrent la revue de leur bourse. Et ce fut bientôt fait. Il y avait si peu que c'était comme s'il n'y eut rien eu du tout. Goyan Etche et Etche Goyan tinrent donc conseil. Et comme la misère était mauvaise conseillère, ils convinrent que celui des deux que le sort désignerait serait aveuglé, que l'autre lui servirait de guide et qu'il s'en retournerait ainsi en demandant la charité aux patients, aux passants. Le sort désigna Goyan Etche qui se soumit sans murmurer. Et voilà Goyan Etche qui s'en va par les chemins du côté du pays en répétant d'une voix lamentable « Faites l'aumône aux pauvres aveugles pour l'amour de Dieu !» pendant qu'Etche Goyan le conduisait par la main. Etche Goyan, le clairvoyant, recevait ce qu'on donnait pour Goyan Etche et élut à la fin du jour une jolie petite somme. Quand il fut question de dîner, Etche Goyan, le clairvoyant, se chargea de faire les parts. Et il eut soin de mettre dans la sienne ce qu'il y avait de meilleur, laissant le reste à l'ami Goyan Etche. L'ami se plaignit, car il avait senti l'odeur de la viande. Etche Goyan n'y fit aucune attention. Une mauvaise pensée lui venait à la vue de l'argent. Je serais riche s'il ne me fallait pas partager la caisse avec mon camarade. Et bientôt après, il se dit, Goyan Etche n'y voit pas, rien n'est plus facile que de me débarrasser de lui, et alors tout l'argent m'appartiendra. Le chemin que les deux amis suivirent le soir même traversait une grande forêt. Etche Goyan conduisit Goyan Etche dans un fourré et l'y abandonna. Quand le pauvre aveugle fut bien certain qu'il était seul, il éprouva d'abord un grand embarras. Mais c'était un garçon révolu qui n'avait pas perdu son temps au régiment. « Ce que j'ai de mieux à faire pour le quart d'heure, se dit-il, c'est de trouver un abri contre les bêtes sauvages qui rôdent pendant la nuit. Demain apportera assez tôt sa peine. » Là-dessus, Goyan Etche s'en va à tâtons jusqu'à ce qu'il trouve un arbre à sa mesure. Il y grimpe et se place aussi commodément qu'il peut pour y passer la nuit sur un fourchon. Mais il ne pouvait dormir et songeait à sa triste position. Tout à coup, tout près de lui, il entend un cri. Deux cris répondent au premier. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche, comme s'il s'agissait d'un signal. Au pied de l'arbre même où il s'était réfugié, se réunissaient un singe, un loup et un ours. « Que savez-vous de nouveau ?» se demandait-il l'un à l'autre. Le singe répondit le premier. « Je sais un grand secret dont nul hormis nous ne doit être instruit. L'arbre qui nous abrite contient un remède souverain contre la cécité. Un aveugle qui se frotterait les yeux avec le libère placé sous son écorce recouvrerait aussitôt la vue.
J'ai aussi un secret à vous confier, dit l'ours à son tour. Depuis longtemps, la sécheresse désole le canton. Eh bien, la pluie ne tarderait pas à tomber si l'on coupait le noyer qui a poussé dans le cimetière, et elle durerait assez pour assurer une bonne récolte cette année. Le loup dit enfin, « J'ai aussi un secret à vous confier. La fille du roi d'Italie est alitée depuis 2 ans, sans que personne ait trouvé le remède pour la guérir. Elle guérirait cependant, si l'on retirait de sa couche un immonde crapaud qui s'y cache et qu'on le brûle à vif. » Après s'être ainsi communiqué leur secret, le singe, l'ours et le loup jurèrent de ne les révéler à personne et se donnèrent rendez-vous au même lieu, à pareil jour de l'année suivante. Puis chacun d'eux s'en alla où il voulut. L'aveugle n'avait pas perdu un mot de leur conversation. Il se hâta d'enlever un morceau de l'écorce, en détacha le libère et s'en frotta les yeux. Aussitôt, il recouvra la vue. Il descendit de l'arbre plus facilement qu'il n'y était monté, retrouva son chemin sans peine et alla trouver les notables du canton. Je sais, leur dit-il, un secret pour mettre fin à la sécheresse dont s'ouvrent vos champs. Je suis disposé à vous le livrer. La pluie tombera de suite et durera tout le temps qu'il faut pour vous assurer une bonne récolte cette année. Pour mon paiement, vous me donnerez une voiture attelée de 2 bons chevaux et ma charge d'argent. Les notables mirent en délibération la proposition de Goyeneche. Sans doute la condition était dure. Mais qu'était-ce que quelques milliers d'écus à côté de la récolte de tout le pays ? Il fut donc résolu que l'offre serait acceptée et le prix payé à Goyeneche après qu'il aurait tenu sa promesse. Goyeneche coupa le noyer et la pluie tomba abondamment. Quand il y en eut assez, elle cessa. On lui donna sans rechigner la voiture attelée de 2 chevaux et autant d'argent qu'il put emporter. Il acheta un habit de médecin, mit l'argent dans le coffre de la voiture, s'assit sur le siège et prit la route d'Italie. Il allait à petite journée, mais à la fin il arriva au palais du roi. Celui-ci dit à Goyeneche, « Docteur, si vous parvenez à guérir ma fille, je vous donnerai autant d'argent que vous voudrez et je ferai de vous mon gendre. » Goyeneche suivit de point en point les prescriptions du loup. Il fit transporter la malade dans une autre chambre, ouvrit la paillasse du lit. Il trouva dans la paillasse l'immonde crapaud et l'alla jeter dans le feu de la cuisine. Et quand le crapaud fut brûlé, la princesse se trouva guérie, toute prête à se marier. Les grands dîners et les grandes fêtes terminées, les deux époux pensèrent qu'il serait agréable de faire un tour de France, l'un à côté de l'autre.
Je lui lascio il pilotari, già aussi maile come la cari.
Alors ils montèrent dans la voiture du docteur et reprirent en sens inverse la route qu'avait déjà parcouru Goyeneche. En passant par la ville où il avait été naguère réduit à mendier son pain, qu'est-ce qu'aperçut le docteur à la portière, maigre, hâve et déguenillé, et demandant la charité pour l'amour de Dieu ? Ecce Goyen lui-même, le traître à qui l'argent mal gagné n'avait pas profité. Ecce Goyen reconnut aussi Goyeneche, et resta confondu en voyant son camarade à côté d'une belle dame et des laquais galonnés derrière la voiture. Mais Ecce Goyen était sans vergogne, il s'enhardit à aborder Goyeneche et à lui demander comment il se faisait qu'il le retrouva ainsi riche à ce qu'il paraissait et clairvoyant après qu'il l'avait laissé misérable et aveugle. Goyeneche lui raconta simplement ce qui lui était arrivé, comme il avait surpris les secrets du singe, de l'ours et du loup. Puis il ajouta « Tu peux espérer encore semblable fortune. C'est aujourd'hui l'anniversaire du jour où les 3 animaux se sont donné rendez-vous. Va et cache-toi dans l'arbre que tu sais. Ils viendront au milieu de la nuit et tu ne peux manquer d'entendre, comme j'ai fait, quelques secrets dont tu pourras tirer profit. Et Tchegoyen, résolu à tout pour sortir de la misère, courut aussitôt au bois et se cacha sous le feuillage de l'arbre. Les seigneurs de la forêt y arrivèrent à minuit, comme l'année précédente, mais au lieu de s'aborder en se faisant des compliments, ils paraissaient fort irrités l'un contre l'autre. « Lequel de nous, disait-il, a dévoilé nos secrets ? Car le pays a été sauvé de la sécheresse et la fille du roi d'Italie guérit de son mal. »« Ce n'est pas moi, hurlait le loup. Ni moi, glapissait le singe. Ni moi, grognait l'ours. » « Mais si aucun de nous n'est coupable, conclurent-ils, il faut que quelque traître ait surpris ce que nous avons dit. Pour éviter le même accident, examinons bien les cachettes autour d'ici. » Chacun explora, soit les rochers, soit les buissons. Enfin, le singe regarda en haut et aperçut Etchegoyen, tapi sous le feuillage. « Voici celui qui nous a trahis !» s'écria le singe. « Il ne nous trahira pas deux fois !» En deux minutes, le singe eut grimpé à l'arbre et précipité Etchegoyen. Le misérable n'était pas arrivé en bas que l'ours et le loup l'avaient mis en morceaux. Vous pourrez retrouver ce conte dans le livre « Légendes et récits populaires du Pays Basque » de Jean-François Cercan. Et voilà, merci à tous, c'était Bord de Seine, une émission présentée par Tiffen. Vous pourrez nous retrouver sur le site Esprit Occitanie et pour la toute première fois sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau Bord de Seine.